Chapitre 10. Manuel Vincent était mort. Sa vie avait été tragique, sous des apparences banales, sa mort le fut aussi. Cependant, une expression paisible revêtait son visage de marbre que la passion avait enflammé si souvent. Un vague sourire était fixé sur ses lèvres. Peut-être avait-elle murmuré le nom de Jonquille avant de se fermer pour toujours. Il avait donné sa vie pour elle, rachetant ses erreurs par cet acte d'amour suprême. Peut-être avait-il, pour la première fois, connu la paix en cette minute solennelle où l'âme, prête à s'élancer, se recueille dans l'angoisse même de la mort. Peut-être avait-il dit à la vie un adieu sans regret. Le calme mystérieux de ce visage, dont Jonquille ne détournait pas un instant les yeux, était la seule consolation qu'elle put accepter. Les paroles de ses amis glissaient sur elle, qui ne les entendait même pas. Assise au pied du lit où reposait Manuel, elle le regardait avec de grands yeux sans larmes, qui contemplaient pour la première fois le redoutable mystère de la mort et essayaient de le sonder. Il était là, dans toute sa force et dans toute sa jeunesse, semblait-il. Seule, cette terrible pâleur révélait que sa jeunesse et sa force étaient coupées à leurs racines. Jonquille parlait à son mari à voix basse. « Comme tu es tranquille, disait-elle, on est donc mieux là où tu t'en es allé. Ici, tu n'avais pas ce sourire. Manuel, Manuel, je n'ai pas su te rendre heureux. » Elle voulait être seule pour s'entretenir avec lui. « On me le prendra bientôt, laissez-moi » murmurait-elle quand on essayait de lui faire quitter la chambre funèbre. Quand on le lui prit, en effet, quand elle vit les contrebandiers s'éloigner en cortège, en portant leur compagnon à sa dernière demeure, alors elle se sentit vraiment veuve, alors l'affreux déchirement se fit. À genoux, à côté de Pierre, les mains crispées, l'âme accablée jusqu'à la mort, elle laissa passer sur sa tête ces grandes eaux mugissantes de la douleur suprême. Des jours s'écoulèrent sans qu'elle prononçât une parole, sans qu'elle essayât même de lutter. Elle ne pouvait plus ni penser ni vouloir, elle ne pouvait que souffrir. « Pourquoi lui ?» murmurait Pierre. « Pourquoi faut-il que les inutiles restent et que les forts s'en aillent ? C'est moi qui aurais dû partir à sa place !» Ces mots, Jonquille les entendit. Sortant tout à coup de sa torpeur, elle entoura Pierre de ses deux bras. « Tais-toi » s'écria-t-elle. « Si Dieu allait t'entendre et te prendre aussi !» Alors elle pleura. La rigidité de sa douleur céda à une émotion impétueuse, à des sanglots qui la brisèrent et au milieu desquels elle s'endormit comme une enfant. La mère Salomé allait et venait dans la maison ainsi qu'une âme en peine. Elle avait aimé Manuel, robuste et brave, comme un fils et même plus que Pierre. Elle souffrait maintenant autant qu'elle pouvait souffrir. En passant, elle touchait d'une main presque affectueuse les menus objets que Manuel lui avait donnés. 10 fois par jour, elle ouvrait l'armoire où elle avait serré son beau caraco de drap brun. « Tout de même, j'ai eu raison de me pourvoir, » pensait-elle. « L'hiver prochain, il ne me fera plus de cadeaux, le pauvre gars. » On la surprenait dans les coins, s'essuyant les yeux avec son tablier. Elle faisait de son mieux pour consoler Jonquille et lui marquait plus de tendresse qu'autrefois. Un jour, elle lui dit « C'est une grande perte que nous avons faite, ma pauvre. Te voir là, en robe de veuve, me fend le cœur. Mais ton mari, vois-tu, était de ceux qui rencontrent partout des pierres d'achoppement. Il n'était ni assez bon, ni assez mauvais pour faire son chemin. Trop de caractère et puis des regrets. Ça l'a sombrissé. » Elle se tut un instant, puis elle ajouta « Il se serait mis à boire !» Jonquille tressaillit, se leva aussitôt et s'éloigna. Cette pensée, elle se l'avouait à peine, lui était venue. Mais elle la repoussait comme une trahison envers la mémoire de Manuel. Elle aimait maintenant son mari mort, mort pour elle, avec une ferveur, une passion que Manuel vivant ne lui avait jamais inspirée. « Pourvu que mon petit enfant soit un garçon !» pensait-elle, tout en cousant assidûment les menus objets destinés à compléter la layette qui avait servi à elle-même et à Pierre. Cet ardent souhait fut accompli. Le nouveau-né, que 6 mois plus tard la mère Salomé reçut dans ses bras et emmaillota d'une main tremblante, était un vigoureux garçon. « Il a les yeux de son père, » dit-elle en le tendant à Jonquille, dont les joues étaient inondées de larmes, larmes de deuil et de joie à la fois. Les contrebandiers vinrent, aussitôt qu'on le leur permit, saluer la jeune mère. Chacun s'offrait à être le parrain du petit Manuel. « Non, » dit Jonquille en secouant la tête, « il faut que nos chemins se séparent ici. Nous allons changer de vie, c'est déjà entendu avec ma mère. » Là, je lui viens, elle est fatiguée. Nous vendrons la vieille maison pour nous établir ailleurs. À nous trois, nous vivrons de peu. Nous tâcherons d'avoir un jardin, et il y a bien des choses qu'une femme peut faire sans sortir de chez elle. J'apprendrai à repasser le linge fin. » Fernand Mitou protesta. « Vous n'êtes pas faite pour ça, Jonquille. Vous ne pouvez tenir en place. » « J'ai changé. » répondit-elle avec un sourire si triste que Firmin se détourna, plus ému qu'il ne voulait le laisser voir. « Ma foi, si vous partez, je ne vois pas trop ce qu'on deviendra, nous autres. On était accoutumés à la vieille cassine, il faudra chercher un autre rendez-vous. » « À moins qu'un de vous ne l'achète. Constant Loison serait assez riche pour ça, » dit Arsène. Jonquille fit un geste de brusque dénégation. « Il ne l'aura pas. « Quand même, il nous en donnerait des 100 et des 1000, » s'écria-t-elle. « Il est cause que je me suis querellée avec mon mari la veille de... » Elle n'acheva pas, ses yeux se gonflèrent et elle serra plus fort dans ses bras le petit Manuel. Elle était assise près de la fenêtre, sa jolie tête brune et pâle, légèrement inclinée sous le poids du chagrin, frêle comme une enfant, mais pleine de dignité maternelle, et belle, dans sa robe noire, d'une beauté calme et grave qu'elle n'avait pas autrefois. Le petit enfant, couché sur ses genoux, ouvrit les yeux. Jonquille se pencha vers lui. Ah, comme c'était bien là, en effet, les yeux de Manuel! Avec la vie de son mari, elle avait cru sentir la sienne s'éteindre, mais voici que Jonquille renaissait, à mesure que cette petite existence s'épanouissait à côté d'elle, comme un bourgeon naît sur une branche dépouillée. Les doigts rudes de Firmin Mitou caressèrent doucement la petite figure innocente qu'encadrait le feston du bonnet. « Toi, tu ne seras pas contrebandier, je vois ça dans les yeux de ta mère, » murmura-t-il. « Elle a peut-être raison. » « Nous, on est dans la poix, on y reste. J'ai dans l'idée de faire comme Manuel, soit dit sans vous chagriner, Madame Jonquille. Je voudrais me mettre à mon compte. Si les autres font comme moi, Constant Loison sera bien embarrassé. » À cette idée qui ne semblait point lui déplaire, il se caressa la barbe silencieusement. « Voyez-vous, on est bon qu'à ça, » reprit-il. « On connaît le métier, et le métier vous connaît. Parfois, ça tourne mal. » « Mais qui peut dire ? Allons, Jonquille, souhaitez-moi bonne chance. Ainsi, vous ne ramerez plus jamais notre barque. » À ces mots, les jours passés surgirent devant elle. Elle rougit, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Elle se leva, son petit Manuel dans les bras, et vint s'accouder auprès de Pierre, qui seul la comprenait toujours. Il prit la main de sa sœur dans la sienne, plus frêle encore qu'autrefois. « À nous deux, n'est-ce pas, nous élèverons mon petit garçon, » lui dit-elle. « Avec l'aide de Dieu, il sera plus heureux que son père. » Fin 2. Le mari de Jonquille, de T. Combes.